souffrit pour la première fois de cet aspect sordide, parce que fragmentaire, de leur rapport. Elle disait « Je serai là-bas après-demain, dans la soirée. Tu m'attendras au quart ?» Elle dut répéter avant qu'il entende et promette. Elle s'inquiéta de cette « absence ». Il ne put la rassurer. Ce qu'il ressentait, il ne savait pas les mots pour le dire. Mais il jugeait ce court avenir, après-demain, indigne de lui, d'elle. Il voyait tout à coup dans leur amour comme le vestige, la doublure d'un amour qu'autrefois ils auraient éprouvé, ou que, plus bizarrement, ils devaient un jour connaître. L'impatience de vivre ça rendait le présent dérisoire. Jean se reprochait le temps qu'ils allaient perdre. Pour le rappeler à elle, « Bonjour, toi !» dit Françoise. Et Jean lui en voulut de répéter ce mot, de se répéter toujours comme si l'amour ne devait plus être pour eux qu'une barre de manège. Il faillit crier « Oui, c'est bon, on le sait !» parvint à se taire. Ce n'était pas nécessaire qu'il parlât. Elle le regardait. Ils s'embrassèrent fort au milieu de la foule, scandaleusement. Fin de la troisième partie, mai. Quatrième partie, juin. « Un bien sale temps pour un mois de juin, » dit Michel. Il nouait sa cravate, debout devant la fenêtre du salon. Il s'habillait pour sortir le soir. Il fallait toujours qu'il égrenât ses soucis vestimentaires de pièce en pièce, quitta la chambre en bras de chemise, impliqua le désordre rustique de la salle à manger dans la besogne fastidieuse d'attacher ses boutons de manchette, consacra au lassage de ses chaussures noires la cuisine ou l'office, attendit d'en être au vestiaire pour enfiler son veston. Françoise souffrait de cette manie, une entre cent, et ne voulait pas voir que c'était elle-même qu'il poursuivait de la chambre au salon, de la salle à manger, dans la cuisine. Elle ne comprenait rien aux agissements de Michel, mais lorsqu'il lui disait « Toujours tu me donnes tort », elle ne l'admettait pas. Elle se donnait tort à elle-même, surtout de continuer à vivre avec lui. Ainsi pensait-elle, un sale temps ? Pourquoi ? La laide banlieue de Melun appelait ce ciel maussade et gris. Elle n'imaginait pas de bleu sur ces petites villas toutes horribles. Mais elle se demandait s'il ferait beau en Provence. Son désir de soleil s'alourdissait, devenait un besoin maladif. Le torse haut, Michel l'observait en souriant. Un sourire plus bête que méchant. Elle reconnut son pire visage. Il l'observe comme on détaille une passante dans la rue. Dehors, il savait dire « ma femme » et quelquefois entre amis « ma chérie ». Ici, un étranger, en tenue de l'air. Étonnant qu'il ne couche pas avec. Il allait l'insulter, elle en était certaine, non, pourtant. « Alors, ma chère Françoise, sur le départ ?» Elle s'étonna, une fois encore, de n'éprouver ni mépris ni haine. Elle ne l'aimait pas, mais ne lui voulait pas de mal. Elle n'avait pas honte, non plus, de penser à son amant en présence de son mari. Je suis comme morte quand il est là. Ce n'était pas de la froideur, en effet, mais une sorte de léthargie. Elle s'ennuyait à mourir. En somme, dit-il, demain matin, tu seras partie, je ne te revois plus. Dans une quinzaine de jours. La précision le blessa. Ça ne changera pas beaucoup pour ce que nous nous voyons. Elle ne répondit pas. Leur dialogue rarement allait plus loin. Elle énonçait un fait, il en tirait quelque obscur commentaire moral dont elle n'avait que faire. « Tiens, le goût des sardines me revient. J'ai toujours été comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Même petit garçon, je me souviens. Je n'ai jamais pu manger de sardines. Il la regarda. Ça t'est bien égal à toi, tu t'en moques, toi, de cela comme de tout, du reste. Il y a longtemps, reprit-il, que je n'ai plus d'illusion sur l'affection que tu me portes. J'espère pourtant que ta conduite à Aix ne prêtera pas à scandale. Après tout, tu es ma femme. Je t'en prie, dit-elle, pas de scène. Il se montra surpris. Il n'avait pas eu l'impression de crier. Tu m'écriras au moins un peu plus souvent que d'habitude quand tu es parti? Oui. Pourquoi tient-il tant à parler et que je lui réponde? Et pourquoi dire? La situation semblait claire à Françoise et depuis longtemps entre eux. J'ai eu de la patience avec toi, Françoise. Souviens-t'en, une patience qu'aucun autre homme n'aurait eue. Il cria en tirant furieusement sur son col. J'ai été mal toute la journée. Ça doit être ma chemise neuve. Une chemise neuve est toujours trop empesée. Je t'ai dit pourtant. Ou alors tu m'as pris encore du 39. De ça, comme du reste, cria-t-il. Il s'adoucit. Tu es comme ça et tu n'y peux rien, qu'est-ce que tu veux? Mais tu es la femme de Michel Galla et je te demande de ne pas l'oublier. Elle ne tourna pas la tête lorsqu'il quitta le salon. Il n'est pas encore sorti. Elle l'entendait donner ses ordres grossièrement à son habitude à Louise, la bonne, dans le vestibule, debout devant la fenêtre, à la place où tout à l'heure il se tenait. Elle regarde une femme sur le trottoir d'en face qui parle à une voisine accoudée à sa fenêtre. Si je n'y prenais garde, je finirais comme ça. Les sardines, les chemises et le viol à heure fixe, ce qu'elles appellent le bonheur. Mais au bord du trottoir, deux enfants jouaient. Françoise les regarda. Elle ne savait plus. Le ciel est gris. Tout à l'heure, il sera noir. Elle posa son front sur la vitre glacée. Le bonheur existe pourtant, et le soleil quelque part. Y aura-t-il du soleil, y aura-t-il du bonheur et de l'amour là-bas? Tout cela lui paraissait loin, tout à coup si loin, qu'elle se prenait à douter de connaître à nouveau le soleil et l'amour. N'était-elle pas semblable, elle-même, à ces maisons aux toits vulgaires sur lesquelles jamais ne se pose qu'un ciel gris? Le désir d'être seul pour mieux se fuir. S'il ne l'éprouvait si vif, Jean n'aurait pas vécu une existence errante. La multiplicité de ses expériences, croit-il, ne se justifie qu'ainsi. Être divers, c'est encore être seul. Car l'éparpillement, comme la solitude, permet de vivre en surface, sans s'attacher à rien. Permet de rejeter la double charge d'autrui. Et c'est assez d'un métier absorbant pour requérir toutes les forces d'un homme. Transparent, le ciel qui, sans une ride, s'est entrouvert depuis le départ de Brétigny, sans un nuage, devant l'avion et son pilote, étale au-dessus de la Provence une sérénité de paradis. Un vol sur Marignane a montré à Jean la mer, verte comme une huître. L'eau de l'étang est plus claire encore. Mais, le temps de saluer les camarades, elle s'obscurcit. Elle resplendit comme l'eau d'une pierre un peu trouble. Le ciel gagne la profondeur des yeux de Françoise. Pourtant, ce n'est pas à Françoise qu'il pense lorsqu'une valise, son unique bagage à la main, il s'en va plus tard sur la route. Il a refusé l'aide d'une voiture pour atteindre son hôtel, une pension de famille, à mi-chemin entre le terrain et le bourg. Son besoin de liberté physique est d'abord un besoin de dimension nouvelle dans le temps ou l'espace. Les 800 km de ciel qu'il vient de franchir n'ont pas suffi à le combler. Il est content de s'être attaqué au mur du son. Deux ou trois fois durant le voyage, hors de tout contrôle, pour se prouver sa liberté. Mais ce n'est plus, et depuis longtemps, une performance. À l'homme sans imagination, Tout paraît trop simple. Rien ne l'est. Mais tout est proche. Les montagnes qui se confondent avec les nuages, l'étendue crayeuse, un champ et, dans le champ, soudain, une maison au toit rouge ou un bouquet de cyprès derrière un mur, tout a pris un visage d'adolescence. Tournant la tête, Jean aperçoit la fille. Il n'en est pas surpris. En quelques enjambées, elle la rejoint, les cheveux noirs, le corsage rouge, les yeux verts, l'air d'une gitane. Elle souriait avant qu'il dise « Bonjour, mademoiselle. Bonjour. » Il l'avait remarqué déjà dans le bar et avait remarqué déjà « Tiens, une fille en chasse. » Elle le suit depuis la base. Ce n'est pas maintenant pour tenter de le semer. « Merci, » dit-il. « Comment ?»« Je vous dis merci. C'était gentil d'être là à m'attendre. » »« Mais je ne vous attendais pas. » Puis elle comprend et rit. Son rire convient au ciel rouge de Provence, au petit frisottis des herbes. Il a envie de la coucher sous lui, fin d'elle, ou bien d'une autre. Mais d'une, il est de nouveau celui qui avouait « Je suis jaloux de toutes les femmes », celui qui ne pense pas que la vie pose de vrais problèmes. Le meilleur dans l'amour, c'est encore qu'il finisse. Cette saveur de la liberté pendant des semaines oubliée qu'elle est enivrante, pour la première fois depuis la fin de mars, la liberté de ne pas se soumettre à l'obsession d'une tendresse insidieuse, de ne pas simuler la prévenance pour justifier le désir. Ses pensées lui appartiennent. Il peut s'y perdre sans craindre d'irriter par son absence. L'air lui paraît léger, la lumière émouvante, parce qu'il les reçoit dans un corps rassemblé. Il dit le nom de l'hôtel où il va. Tout le temps qu'il s'est tu, elle l'a regardé. Elle ne riait plus. Les femmes, toujours, l'ont regardé de cette singulière façon, attendrie. Mais depuis qu'il connaît Françoise, elle semble distinguer en lui on ne sait quel rayonnement invisible. Les seins de la fille affrontent l'espace. « Vous savez où c'est ?»« Lui aussi. Pourquoi le dirait-il »« Oui, je vais vous conduire. » Ses seins provoquent l'espace et ouvrent le chemin. Tout entière, elle se glisse dans l'entrebâillement que ses hanches élargissent. Où elle est passée, l'air du soir remué sans la femme. « Quel est votre nom ?»«
Françoise. » »«
Oh non !» Et puis... Tant pis, c'est comme ça. Que faites-vous ce soir?
Vous allez vite, vous!
À la vitesse du son. Comme, naturellement, il a retrouvé l'expression de naguère, un peu fat, du commis voyageur du ciel, qu'est tout pilote à terre, du type qui se gobe et qu'il sait. Tout à coup, cela le gêne. Il n'est pas très bien dans sa peau.
Dites donc, dit-elle. Je suis peut-être sourde,
vulgaire. Mais vive, tant mieux, il aime ça. Il l'a prise, tout le plaisir a été pour elle. Étendu auprès de la belle garce, il avait d'étranges pensées qui ne ressemblaient à rien dont il eut l'habitude. Le tort d'Irène était de me laisser libre. Et Françoise est ainsi. Elle ne demande rien, n'exige rien de moi, elle prend ce que je lui donne, et ce n'est pas beaucoup. Le goût de la solitude ou la peur d'être seule, d'être soi-même? La fille riait au souvenir de son plaisir. Elle voyait en Jean un homme simple, mufle et brutal ce qu'il faut, poète un petit peu sur les bords. Je lui ai donné ce qu'elle attendait de moi. Avec une autre, il aurait été autre. Il peut leur apparaître violent ou tendre, jouer l'indifférence ou la passion. Des femmes lui ont dit qu'il était un ange et qu'il était un démon. Il a connu les flirts qui n'en finissent pas et la possession dans l'heure qui suit la rencontre. Il a quitté des femmes sur un baiser et d'autres sur un mot qui claquait comme une gifle. Il a traîné une amitié après l'amour, comme on se laisse encombrer d'une légende après l'exploit. Il a eu de ces maîtresses qu'on abandonne et qu'on reprend au gré de sa fantaisie et d'autres qu'il aimait par père. Amis ou sœurs, pour pimenter le jeu par la rivalité, il a eu
Et qu'est-ce que tu viens faire à Istres ?
Pourquoi répondre ? Les cuisses de la fille sont brunes et rondes, longues aussi, les seins sont beaux. Elle fait l'amour comme toutes, elles font l'amour avec des gloussements, des cris, pour se persuader que c'est pour de bon, malgré ses corps déplorablement extérieurs, soumises déjà et prêtes à s'accrocher. Les plus garces sont les plus faciles. Elles vivent d'illusions. Elles seraient bienvenues de se plaindre du marchand de vent. Un raisonnement d'autrefois. Il ne s'agit pas d'elles, mais de moi. Et qu'est-ce que je fous ici ? Il en a marre d'être cent, partagé en mille. Au milieu des vers de couleur, en morceaux, que toutes elles sont, Françoise s'élève comme une grande glace où l'on peut se voir entier. Françoise, qui, maintenant, c'est l'aube, doit prendre le train pour être ici ce soir. Françoise, dont la pensée ne l'a pas quittée.
« Tu peux bien me dire, au moins, tu restes longtemps ?»«
Quelques jours, oui. Mais pas de bêtises, mon petit. Ma femme arrive ce soir. » Le mensonge est venu tout naturellement. Il n'a pas eu le temps de le préméditer. À l'instant qu'il a dit les mots, ce n'était même pas un mensonge.
« Oh zut, c'est ben ma chance. Faut toujours qu'il soit marié. »
Depuis que les beaux jours sont là, maman et Michou ont repris l'habitude de sortir ensemble le dimanche et le jeudi après-midi. À peine hors de la ville, Michou respire. Son horreur des villes est consciente. L'une de ses meilleures rédactions traitait du sujet « Que préférez-vous, la ville ou la campagne ? Dites pourquoi ?» Le professeur avait longuement rêvé devant les éloquentes imprécations de Michou, puis il était sorti de son rêve pour donner au devoir la plus forte note que put se permettre un prof de français, 9,5/10. Pas plus que son élève favori, sans doute, le brave père Bordafan n'aime-t-il les « cités empuantis par l'essence et le gaz, la poussière que font les voitures, la sueur des hommes ?» Sans doute, le cri de l'enfant « si tout le monde me ressemblait, on détruirait les villes, on s'en irait par les routes, on apprendrait à mieux aimer les arbres et les fleurs, le ciel et les oiseaux » a-t-il réveillé au cœur du bon vieux des velléités analogues, déçu, mais vivace. Pourtant, malgré le 9,5/10, ni le professeur n'a deviné la vraie pensée de Michou, ni Michou lui-même exprimait vraiment ce qu'il éprouvait en présence des arbres et des fleurs, du ciel, des oiseaux. Hors de la ville, les chauves-souris ne sont que des bêtes comme les autres, et d'ailleurs, le jour, on ne les voit pas. Hors de la ville, on est plus libre que n'importe où, serait-ce dans sa chambre claire, la porte fermée. Les sens eux-mêmes sont libres. Une colline à l'horizon paraît faite d'un chou-fleur, d'un maïs, d'un épi de blé. Les nuages ressemblent à des soucoupes volantes. Une prairie s'élève droit devant soi, verticalement comme un mur. Sur la prairie, contre l'écran du ciel, broute un grand cheval noir. La prairie, les nuages, la colline et le cheval bougent sans cesse. Tout vit. On sait que les professeurs sont de pauvres types et, ce qu'on apprend en classe, des imbécilités. Maman marche à petits pas. Elle peine à suivre. Certainement, elle ne voit pas les choses comme Michou les voit. Cette promenade pour l'enfant, l'éternité retrouvée, pour maman, n'est rien d'autre qu'un exercice hygiénique. Michou, parfois, voudrait lui faire comprendre, mais il y a trop d'images dans son œil.